Chapitre 4. Les magasins de Spire et de Worms nous mirent donc sur un nouveau pied. Nous étions habillés, armés, équipés comme des soldats. Nous pouvions faire campagne. Combien d'autres auraient souhaité d'être à notre place? Je ne parle pas seulement des Prussiens. En pleine retraite dans les bouts de la Champagne, les misérables avaient tous la dysenterie, à force d'avoir mangé du raisin. Ils abandonnaient canons, caissons, bagages. Ils traversaient Verdun, Longueville, sans même se retourner une seule fois pour combattre. C'était la déroute du despotisme. Nos paysans exterminaient ces malheureux par douzaines, derrière les haies, sur les chemins, le long des bois. Les puits de nos villages en étaient pleins. Tout le monde s'en mêlait, même les femmes. Et Marat trouvait que ce n'était pas encore assez. Il reprochait à Dumouriez de leur laisser une porte ouverte. Il aurait voulu tenir Brunswick et Frédéric Guillaume pour les pendre et les faire servir d'exemple au roi qui par la suite oserait nous envahir. Il avait bien raison, car on a reconnu depuis que notre gouvernement avait fait une convention secrète avec le roi de Prusse. Enfin, cette campagne de 6 semaines était assez belle. Les Prussiens se sauvaient, les Autrichiens et les émigrés restés en arrière pour bombarder Lille en Flandre venaient de lever le siège. Le général Anselme envahissait dans le midi le comté de Nice. Les Vendéens avaient été mis à la raison pour quelque temps. Tout allait bien et nous apprenions ces bonnes nouvelles jour par jour à la distribution du bulletin de la Convention. Carnot et Prieur avaient établi chez nous cette bonne habitude. Quelques mois plus tard, en juin 1793, elle fut étendue à toutes les armées de la République. Chaque soldat connaissait donc les raisons de la guerre. Il savait ce qui se disait et se faisait à Paris. Et c'est pour cela qu'au lieu de m'être battu comme une bête, je puis vous raconter maintenant mon histoire. On devrait bien encore appliquer ce décret de la Convention sur la distribution des bulletins de l'Assemblée, comme tant d'autres que l'on avait oubliés et qu'on déterre seulement selon les occasions. Celui-ci rendrait service tous les jours à des milliers de nos enfants. Ils sauraient au moins pourquoi on les envoie mourir aux quatre coins du monde. Quelques jours après la prise de Spire, le 12 octobre 1792, nous reçûmes l'ordre, un matin, de lever le pied et tout de suite on boucla le sac, on boutonna ses guêtres et l'on sortit par la porte de Mannheim, du côté de Worms, sans dire ni bonjour ni bonsoir. Tout le corps d'armée encore à Spire ou dans les environs nous suivait. Il ne pleuvait pas, mais le temps était humide. Les brouillards du Rhin continuaient à couvrir le pays. Au sortir de la ville, on nous fit prendre une chaussée à gauche, à travers des bois et des bruyères, et durant 6 heures, hêtres, chênes, sapins, bouleaux ne firent que s'étendre devant nous au milieu du brouillard. Nous rencontrions quelquefois de vieux pans de murs, d'anciens châteaux noircis par la fumée, sans toit, sans porte et sans fenêtre, enfin des ruines. Le père Saume disait « Turenne a passé par ici, voilà 100 ans. Il a brûlé, dans une nuit, 400 villes, villages, cens, bourgades et châteaux, par ordre de Louis XIV. Voilà comment les Bourbons faisaient la guerre. » Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'après les forêts, en avant de Spire, le long de la chaussée qui passe à Durkheim, Grünstadt, Oberflächheim, et plus loin, outre ces vieilles démolitions, nous rencontrâmes aussi des maladreries, toutes délabrées, pour mettre les pauvres gens en train de mourir, et des potences comme chez nous avant la Révolution. Et si les Allemands veulent être justes, ils reconnaîtront dans tous les siècles que nous les avons débarrassés de leurs seigneurs, de leur maladrerie et de leur potence. Sans nous, ils auraient encore ces vieilles misères, car ils y tenaient tellement, par habitude, que nous avons été forcés de les battre 100 fois pour les ramener au bon sens. Ils étaient comme ces mendiants qui se figurent qu'on ne peut pas vivre sans vermine et qui sont tout étonnés qu'on leur donne une chemise neuve et des habits propres. Mais allons, toujours en avant. Après les grandes forêts, nous arrivâmes dans un pays de vignes, les plus belles du monde. Elles couvraient des coteaux innombrables. Les Allemands sont si laborieux, si grands amateurs de bon vin, que pour en avoir, ils portent leur fumier à dos d'homme, jusqu'à 4 et 500 pieds sur ces pentes rapides. Ils ont de petits escaliers à la file qui montent d'étage en étage le long des côtes. En voyant cela, j'étais dans l'admiration. Nous avons bu de leur vin. Il est très bon. Le blanc et le rose ont un fin bouquet, mais il ne faut pas trop en boire. Deux bouteilles suffisent pour vous mettre sous la table. Malgré la guerre, ces braves gens finissaient leurs vendanges. Et, la hotte au dos, ils montaient et descendaient leurs escaliers, s'arrêtant quelquefois au haut des grandes roches luisantes, couleur de fer, pour nous regarder. Nous leur crions « Vive la République !» Et tous, hommes et femmes, nous répondaient joyeusement, la main ou le chapeau en l'air. Ah, si les peuples pouvaient s'entendre, s'ils pouvaient se débarrasser des gueux qui les divisent, nous aurions le paradis sur la terre. Notre colonne fit halte vers 2 heures, dans un gros village pour manger la soupe. À 3 heures, nous quittions déjà cette bourgade et vers 9 heures, à la nuit close, nous entrions dans la petite ville d'Alzey, non loin de Mayence. Nous avions fait 16 lieues depuis le matin. Un grand nombre d'entre nous n'en pouvaient plus. Je n'oublierai jamais Alzey. Nous étions arrivés une demi-heure après l'avant-garde et la petite ville fourmillait déjà de troupes. Chasseurs à cheval, hussards, gendarmes, volontaires allaient et venaient dans les rues. Les ordres, les coups de trompette pour ramener les hommes et les escadrons, les appels, les roulements de tambours remplissaient la vallée. Par bonheur, Jean-Baptiste Saume, Jean Rat, Marc Divès, moi et 2 ou 3 autres camarades, nous logions chez un maître de poste à l'entrée du faubourg. Nous avions même des chambres en haut, donnant sur une vieille cour pleine de voitures, et le maître nous avait invités à souper avec lui. La grande cuisine en bas flamboyait. C'était bien autre chose que celle de maître Jean aux baraques, car ce bourgeois avait des domestiques, des servantes, des postillons, des courriers. C'était un homme riche. Et quand les dragons nationaux arrivèrent, on n'entendait plus que piaffer, hennir, crier dans la cour. Chacun voulait avoir son cheval à l'écurie. Nous autres, bien tranquilles, nous changions de souliers et de guêtres, et puis nous descendîmes nous sécher autour de l'âtre. Dans tous les coins de la cuisine, les servantes et même les demoiselles de la maison venaient nous regarder de loin avec nos grands chapeaux, nos longs habits fumants, nos baudriers en croix. Elles étaient curieuses de voir des républicains, et dès que l'un de nous tournait la tête pour voir si elles étaient jolies, elles se sauvaient en riant et se poussant dans la grande allée noire. Le maître arriva bientôt lui-même. C'était un homme sec, brun, le nez un peu crochu et les yeux noirs. Il avait de hautes bottes à revers jaune, garnies d'éperons et une culotte de peau. « Citoyen volontaire, dit-il, donnez-vous la peine de me suivre. » Alors, dans une salle haute, nous vîmes la table mise avec une belle lampe au-dessus, pendue au plafond. Mais la femme et les filles du bourgeois s'étaient retirées. On s'assit et le maître de la maison, au milieu de nous, l'air grave, nous servit lui-même comme un père de famille. À chaque instant, un domestique, un postillon, un courrier entrait lui rapporter ce qui se passait dehors. Lui, sans se déranger, leur donnait ses ordres. Il découpait les viandes, nous versait à boire et ne nous laissait manquer de rien. On causait de notre campagne, de celle des Prussiens dans l'Argonne, de la Révolution, etc. Cet homme, de bon sens, nous parlait de tout dans un vieux français qui me faisait plaisir d'entendre. Plusieurs de nos camarades, étant très fatigués, allèrent se coucher. Le vieux Jean-Baptiste Saume, Divès et moi, nous restâmes seuls à table. Il pouvait être 11 heures, sauf les cris de « Qui vive ?» Au loin, sur les collines, tous les autres bruits de la ville et des environs s'étaient apaisés. Saume alluma sa pipe et se mit à fumer tranquillement, et comme le bourgeois remplissait encore nos verres, je me hasardais de lui dire « Mais, citoyen, vous parlez en français comme nous. Est-ce que vous ne seriez pas de la nation ?»« Oui, dit-il, je descends d'un vieux français, un de ceux qu'on a chassés à la révocation de l'édit de Nantes. » Il paraissait tout pensif, et moi, songeant que cet homme était de la même religion que Marguerite, français comme nous, je fus attendri. Je lui racontai que Chauvel, l'ancien constituant, aujourd'hui membre de la Convention, m'avait choisi pour gendre, que sa fille m'aimait et qu'ils étaient aussi calvinistes. « Vous êtes heureux, jeune homme, » dit-il alors, « d'appartenir à d'honnêtes gens. » Et prenant plus de confiance, il se mit à nous raconter d'un air tranquille, mais avec force, que son grand-père, Jacques Merlin, vivait au pays messin, près de Cervigny, dans le temps des dragonnades. Qu'il avait là sa maison, ses écuries et ses terres, pratiquant sa religion, sans faire de tort à personne, quand le grand roi Louis XIV, un être vicieux, après avoir entretenu des femmes de mauvaises mœurs, du vivant même de la reine, et donné l'exemple de tous les scandales, crut, comme tous les mauvais sujets dont la cervelle se dessèche, qu'en appelant des prêtres pour lui donner l'absolution de ses ordures, il serait encore assis à la droite du Seigneur dans les siècles des siècles. Mais que les prêtres, profitant de sa bêtise, ne voulurent lui donner l'absolution que s'il exterminait les ennemis de l'Église romaine, et qu'alors ce libertin, sans bon sens et sans cœur pour obtenir la rémission de ses débauches, donna l'ordre de convertir les protestants de toute la France par tous les moyens, séparant les mères et leurs enfants, envoyant les pères de famille aux galères, confisquant leurs biens, ravageant, incendiant, massacrant ses propres sujets, les faisant périr sur la roue et les réduisant au dernier désespoir. Il nous dit que ces honnêtes gens avaient mieux aimé tout supporter que d'être de la religion d'un scélérat pareil, que des centaines de mille Français, emmenant leurs vieillards, leurs femmes et leurs enfants, avaient fui chez l'étranger, malgré les cordons de gendarmes établis sur les frontières pour les arrêter, que ces chefs de famille, étant les plus honnêtes, les plus intelligents et les plus laborieux ouvriers et commerçants de leur province, avaient porté le commerce et l'industrie de la France ailleurs, que l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande et même l'Amérique avaient pris alors le dessus pour la fabrication des étoffes, des cuirs et tentures, des faïences, des verreries, des impressions et d'une quantité d'autres articles qui font la richesse d'une nation, que le débauché continuant de faire la guerre et de jeter l'argent par les fenêtres, sans avoir le travail et les économies de tant de milliers d'hommes industrieux pour couvrir ses dépenses, avait ruiné le pays de fond en comble. Et que ce grand Louis XIV, dans ses vieux jours, lorsqu'il ne pouvait plus rien retenir et qu'il laissait tout aller sous lui, criait dans son infection. « Mon Dieu, comme vous me traitez après tout ce que j'ai fait pour vous !» Ce qui montre bien la stupidité d'un être pareil qui se figurait que l'éternel Créateur, dont la volonté seule a tiré les mondes de l'abîme, avait besoin d'un vaurien de son espèce pour lui rendre des services. Qu'il était enfin mort, dans la crasse, laissant un déficit énorme qui, faute d'industrie et d'économie, n'avait fait que grandir sous Louis XV et le régent, et finalement avait forcé Louis XVI de réunir les notables et puis les États généraux, d'où venait notre révolution, la déclaration des droits de l'homme, l'abolition des privilèges et tous les bienfaits dont allait jouir le peuple, en même temps que l'abaissement des fainéants et des débauchés, réduits à vivre comme tout le monde de leur travail. Voilà ce que nous dit ce vieux Français. Mais ce qui me toucha le plus, c'est quand, tout attendri lui-même, il nous raconta l'arrivée des dragons du roi un soir chez son grand-père, apportant à la famille l'ordre de se convertir sur le champ, s'établissant dans la vieille ferme, se couchant avec leurs bottes et leurs éperons dans le lit de l'homme et de la femme, les dépouillant de tout, les traitant à coups de cravache, empêchant même la mère de donner le sein à son enfant pour la forcer de renoncer à son Dieu. Enfin, les réduisant à ce désespoir terrible de se sauver tous ensemble la nuit à travers les bois, en abandonnant la vieille maison bâtie par les anciens, les champs achetés avec tant de peine et arrosés de leur sueur, et poursuivis par des gendarmes comme une bande de loups. Oui, ces choses me touchèrent. Et puis, l'abandon des pauvres malheureux sur la terre, étrangère, sans pain, sans argent, sans secours, sans amis, le travail mercenaire des gens habitués à l'aisance, la femme et les jeunes filles forcées de s'humilier au service des autres, le vieillard courbé sous le travail si pénible quand on a déjà tant travaillé dans sa vie et qu'on voudrait se reposer un peu. Quelle histoire ! Et tout cela par la volonté d'un vieux mauvais sujet, qui se figurait faire ainsi son salut. Finalement, le maître de poste nous dit qu'après avoir beaucoup souffert, après avoir traîné la misère longtemps, tous leurs biens en France étant vendus ou donnés à la mauvaise race en récompense de ses dénonciations, son grand-père et sa grand-mère avaient pourtant fini par amasser quelque chose avant de mourir, et que leurs enfants et petits-enfants ayant l'habitude du travail, de l'économie et de la probité devant les yeux, étaient redevenus aisés et même riches, jouissant de la considération de tout le pays. Et comme je lui demandais, « Mais vous n'avez jamais regretté votre nom de français ? Est-ce qu'il ne vous reste rien là pour la vieille patrie ? Nous ne vous avons jamais fait de mal, nous. C'est le roi seul, conseillé par les évêques, qui vous a banni. Et dans ce temps, l'ignorance du peuple était si grande qu'il faut plutôt le plaindre que le haïr. » Il me répondit, « Tant que les Bourbons ont régné sur la terre de France, personne de nous n'a regretté la patrie. Mais depuis que le peuple s'est levé, depuis qu'il a proclamé les droits de l'homme et qu'il a pris les armes pour les défendre contre tous les despotes, notre vieux sang s'est réveillé. Et chacun de nous s'est dit avec fierté, « Je suis aussi français. » En parlant tout à coup, il était devenu pâle. Il se leva pour ne pas laisser voir son trouble et se promena lentement autour de la salle, les mains sur le dos et la tête penchée. Alors Jean-Baptiste Saume, qui avait écouté tout pensif, le coude allongé sur la table, vida les cendres de sa pipe et dit « Oui, oui, c'est encore plus terrible que les massacres de septembre. Et pourtant, la patrie n'était pas en danger. Les traîtres ne livraient pas nos places fortes. Les Prussiens n'envahissaient pas la Champagne. Ces pauvres protestants ne conspiraient pas contre le pays. Ils se tenaient bien tranquilles et ne demandaient qu'à prier le bon Dieu à leur manière. Mais voici minuit. Il est temps d'aller nous coucher. La colonne se mettra en marche demain, de grand matin. » Nous nous levâmes tous, et le maître de poste alluma une petite lampe, nous conduisit dans le vestibule au pied de l'escalier, en nous souhaitant le bonsoir. Ces choses me sont restées. Je crois même les avoir écrites dans le temps à Marguerite. La lettre s'est perdue, mais je ne pense pas m'être trompé de beaucoup en vous racontant les paroles du maître de poste d'Alzay. Si ses petits-enfants vivent encore, ils pourront lire ce que pensait leur grand-père, du roi Louis XIV, et je souhaite que cela leur fasse plaisir.